peregrino y váyate con Dios. Bon chemin, pèlerin, Dieu te donne la main. Santiago, donne-nous du courage.
Bonjour, c'est toujours avec le même plaisir que le messager du cheval vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique dédiée à celui qui, dit-on, est la plus belle conquête de l'homme, le cheval. Une émission proposée par Jean-Yves Bonnet.
Bonjour à tous.
Et Michel Clément, tous les mercredis et les samedis à 12h35 sur CFM Radio, la radio de proximité que vous êtes toujours plus nombreux à écouter. Et vous avez bien raison. Alors Jean-Yves, en selle pour 25 minutes ?
En selle pour 25 minutes.
Par ce beau soleil.
Ah oui, c'est formidable.
Alors on va prendre le cheval au mot et aujourd'hui le mot chanfrein. Alors à la fin du XVIIe siècle, chanfrein désigne chez le cheval, mais également chez un certain nombre de mammifères à tête allongée, la partie de l'animal qui se situe entre le front et les naseaux. Un siècle plus tôt, le chanfrein désignait la pièce de fer qui couvrait et protégeait le dessus et le devant de la tête d'un cheval de guerre. Mais ce sens est devenu archaïque, hormis dans l'expression ronger son frein, autrement dit contenir son impatience ou même sa colère, expression qui est toujours utilisée aujourd'hui. On dit, voilà, il ronge son frein, donc il a envie d'y aller, mais il peut pas, et voilà, la pression monte. Alors, l'origine de chanfrein reste encore obscure pour les linguistes. Alors là, on va un peu patauger. Si l'origine de frein, c'est-à-dire le mort, on l'a vu dans une précédente émission, est bien identifiée comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'étymologie du mot reste toujours discutée. Une première hypothèse le ferait venir du verbe chaffrainer, c'est-à-dire arrêter, dompter.
Mais quand on fait justement de la monte en liberté, on se sert de ça, parce qu'on met sa main sur le chanfrein, et en mettant sa main sur le chanfrein, le cheval ralentit ou le cheval s'arrête.
Le cheval s'arrête, ça le calme, voilà. C'est un effet calmant.
Quand on a fait le saut de
ouais.
Cheval à cheval, pour maîtriser le cheval qui est au galop, on saute et on met sa main sur le chanfrein.
Absolument.
Donc
oui,
on
oui.
Le prend sur le chanfrein, mais avec sa main, comme avec un instrument.
Oui, c'est vrai, ça apaise l'animal. Et ça l'arrête, bien sûr. Alors donc, ce verbe chaffrainer, le problème, donc il veut dire arrêter, dompter, il n'apparaît qu'une seule fois au XIIIe siècle. Une fois on le voit et puis on le voit plus. Alors toujours au XIIIe siècle, on trouve le participe enchiffrené dans le sens d'asservi.
Il y a un autre endroit aussi qui est tout à fait près du chanfrein qu'on utilise parfois avec pour le maîtriser un cheval qui ne veut pas se laisser donner, c'est le tourner.
Ah oui, mais ça c'est une horreur.
Non,
ça.
Non, mais c'est le tourner, mais en fait c'est un peu la même.
Ah oui, c'est la même chose.
La même impression.
À ceci près que la main sur le chanfrein est calmant, alors que le tourner, c'est que le cheval a tellement mal que.
Oui, on maîtrise le cheval.
Voilà.
Et oui, également par la queue. Quand on enlève un cheval, on lui relève la queue vers le haut, on le paralyse.
On le paralyse, voilà. Alors donc, pour en revenir à notre chanfrein, finalement, les linguistes ne savent pas exactement quelle est l'étymologie. Frein, ils connaissent, mais le champ de chanfrein, ils savent pas trop. Et donc, plusieurs hypothèses ont été donc données, mais il reste des difficultés étymologiques et aussi chronologiques qui empêchent de valider l'une ou l'autre des hypothèses. Enfin, quoi qu'il en soit, un petit conseil, hein, je pense que tu ne me démentiras pas, Jean-Yves, il convient de bien nettoyer le chanfrein de son cheval lors du pansage, en utilisant de préférence une brosse douce ou mieux encore un simple chiffon.
Bien sûr. Hein,
c'est ce que tu conseilles ?
Oui, une époussette.
Une époussette, voilà. Avec les courses de chars, des courses de chevaux montés étaient organisées dans les hippodromes romains et constituaient une des attractions de base avec les combats de gladiateurs ou encore les naumachies, ces combats navals où les bateaux de guerre de taille réduite évoluaient dans les arènes préalablement remplies d'eau. Hein. C'était vraiment du grand spectacle.
Ouais. Oui, en effet, oui.
Alors, pour les courses de chars ou les courses montées, chacun des principaux quartiers de la ville, qu'on appelait à Byzance du reste des messes, qui veut dire un peu canton, fournissait chacun des concurrents qui disputaient les couleurs de leur quartier. Alors, d'énormes paris étaient engagés et souvent le spectacle se terminait par une bagarre générale qui se finissait dans la ville et provoquait de nombreux blessés et pas mal de morts. Enfin, vraiment, ça rigolait pas.
Ça continue.
Oui, mais alors là, c'était carrément des fois des dizaines, voire des centaines de morts.
La passion.
Vraiment, oui, la sienne. C'est cela, voilà. Les chevaux qui courent sur les pavés, Oui, mais les gens se tuaient, les cavaliers se tuaient. Et ils montent à cru.
C'est très dangereux. Oui,
c'est extrêmement dangereux. Moi, je l'ai vu une fois. Ouais. Je t'assure, j'étais content quand c'était terminé. Les cavaliers sont accrus justement pour...
Les malheureux chevaux.
Et les chevaux surtout, ils dégustaient. Alors ces courses furent également adoptées dans l'Empire romain d'Orient et suscitèrent le même enthousiasme et les mêmes débordements, évidemment. Elles finirent par être interdites au début du XIIIe siècle, lors de la quatrième croisade contre les chrétiens d'Orient, au cours de laquelle les chevaliers siciliens croisés prirent et mirent à sac Byzance. Donc ce sont les croisés qui ont interdit ces jeux d'arène, en quelque sorte, ces courses. Voilà. Bon, ce qui n'avait pas empêché, entre parenthèses, donc nos croisés siciliens de massacrer les chrétiens d'Orient. Donc voilà, les croisades, hein, bon, on pourrait en revenir dessus. Alors à cette époque, en Angleterre, les courses de chevaux étaient déjà organisées depuis longtemps. Dans la seconde moitié du Xe siècle, des chansons de gestes racontent comment le roi anglo-saxon Edgar le Pacifique, qui régna entre 959 et 975, paria la somme énorme pour l'époque de 1000 livres sur une jument nommée Arundel contre une jument rivale, Trunsendyce, pari qu'il remporta du reste. Mais c'est le roi d'Angleterre, Henri VIII, au cours de son règne dans la première moitié du XVIe siècle, qui favorisa les courses en les dotant de riches trophées.
Il faut que les auditeurs sachent quand même que le perseur anglais est né d'un barbe et qui a été sélectionné en Angleterre justement pour
les courses. Alors, justement Jean-Yves, et ça va te faire plaisir, tu vas adorer Henri VIII, j'en suis sûr, parce que c'est Henri VIII qui créera également des haras et y importera des chevaux barbes éduqués par des écuyers italiens qu'il fera venir des académies équestres de Naples ou de Ferrare. Voilà. Alors, je te sens monarchiste, Jean-Yves.
Comme quoi, ce cheval barbe est à l'origine de toutes les races de chevaux au monde.
Presque. Laisse une petite place pour les autres. Si on t'écoutait, le barbe serait partout, ça serait même à l'origine du chat, du pingouin et du crétin qui passe dans la rue en dessous. Donc, alors la fille de Henri VIII, Élisabeth Ier, continuera l'action de son père en entretenant une écurie de course dans la ville de Greenwich, ainsi qu'un haras d'une quarantaine de chevaux arabes, cette fois-ci, Jean-Yves, des purs sangs arabes,
des chevaux orientaux. Aussi, hein.
Oui, enfin africains, alors que là, c'était des orientaux. Voilà, comme Virginie Bauer nous l'avait dit dans une émission. Hein, voilà. Chevaux arabes, on dit pas trop chevaux orientaux, voilà. Le sac est large, on peut en fourrer pas mal de bestioles dedans. Alors, il faut préciser qu'Élisabeth était une cavalière accomplie qui pratiquera la chasse à cour jusqu'à sa 70e année. Alors, toi, franchement...
Est-ce qu'elle montait à Califourchon ou en Amazon?
Alors, elle montait en Amazon. Hein, c'est Catherine de Médicis qui montait à Califourchon.
Ah mais... non, c'est le contraire. Catherine de Médicis montait en Amazon, justement.
Et à Califourchon. À Califourchon puisque c'est elle qui a inventé la culotte d'équitation.
Le panty,
voilà, ouais. Exactement. Voilà.
C'est pas elle, c'est son ministre.
C'est son ministre,
parce
voilà.
Elle a demandé à son ministre d'inventer quelque chose pour protéger ses fesses qu'on voyait chaque fois qu'elle tombait.
Horreur et damnation.
En mettant pour la reine, quand même.
Alors, la tradition, donc, de cette équitation perdure à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle avec Jacques Ier, le fils de Marie Stuart, qui ouvre à Newmarket dans le comté de Suffolk, le premier hippodrome anglais. Donc, c'est le fils de Marie Stuart, Jacques Ier. Quelques années plus tard, Olivier Cromwell tentera d'interdire ses courses, mais dut y renoncer devant l'impopularité de cette mesure. Hein, quand il a voulu promulguer le décret, vraiment la population a gueulé. Alors, c'est Anne Stuart, donc pas Marie Stuart, Anne Stuart, reine d'Angleterre et d'Écosse, qui créa le derby d'Ascot, hein, qu'on connaît tous. Aujourd'hui, encore la plus célèbre course de Slip. Rencontre au cours de laquelle s'affrontent les meilleurs chevaux de la planète. Donc, le steeple, c'est une course de plat, mais où les chevaux franchissent des haies ou des fossés. Ben, voilà.
Fossés de 8 mètres de long à franchir.
Voilà, et des obstacles fixes.
Beaucoup,
hein, voilà, hein. C'est ça. Oui. Il y avait de temps en temps des pépins. Enfin,
il y a des chevaux. Le tombeau.
Alors. Le tombeau, oui. D'accord.
Non, mais ça, je suis pas trop pour, moi.
Tu n'es pas trop pour, oui, mais ça, je le sais, Jean-Yves. Tu es pour une équitation.
Plus raisonnable.
Voilà, civilisée, on va dire. Alors, la France, elle mettra un peu plus de temps à organiser des courses de chevaux, mais sera vite rattraper le temps perdu en devenant, dès la fin du XVIIIe siècle, une nation phare dans cette discipline. Donc la France est un peu la tortue, elle part lentement, mais finalement, le sprint final est quand même pas mal. Et c'est ce que le messager du cheval va vous conter maintenant, après une pause musicale, Bob Marley, Coming from the Cold. 1880, à la suite d'un pari, fut organisé sur l'emplacement de la future Tour Eiffel, édifiée environ un siècle plus tard, la première course de chevaux en France, officielle si je puis dire. En fait, seuls deux concurrents y participaient, un Français, Jacques Aimable d'Auvergne, l'écuyer en chef de l'école militaire du reste, et un jockey anglais qui montait un cheval appartenant au prince de Nassau. Comme on le voit, les débuts furent assez timides. En effet, le public français devra attendre encore une cinquantaine d'années avant d'assister à des courses de chevaux régulièrement organisées à Paris. Alors bien évidemment, les grands hippodromes comme Longchamp, Vincennes, Maison Lafitte ou encore Chantilly n'existaient pas encore. Et c'est le roi Charles X, revenu d'Angleterre où il avait émigré en 1789 et devenu très anglophile, qui mit à la mode les courses de chevaux. Celles-ci se déroulaient régulièrement sur le Champ de Mars à partir de 1819. Elles se poursuivaient sous Louis-Philippe, dont les fils, les princes d'Aumale, de Nemours et d'Orléans, y participaient régulièrement après 1846. Puis sous le Second Empire, qui durera de 1852 à 1870, fut créée la Société d'encouragement pour la race chevaline qui organisait des courses dites à l'anglaise auxquelles seuls les chevaux anglais, pur sang anglais, concouraient et d'autres dites à l'orientale où deux chevaux s'affrontaient, un pur sang anglais et un pur sang arabe, un pur sang oriental. Alors avant de seller le cheval, on enduisait les panneaux de la selle avec de la poix afin qu'elle adhère au dos du cheval. Alors la course finit, donc on arrachait la selle, on rasait la partie du dos où le cheval avait été en quelque sorte encollé, quoi.
Oui.
Voilà. Donc, c'était la façon de faire pour empêcher, effectivement, que la selle glisse en arrière ou sur les côtés.
Mais ce serait un bon procédé pour certains cavaliers qui n'ont pas trop d'assiettes et pour les...
Ah ben, il faudrait les coller sur la selle.
Jean-Yves,
j'aime bien quand tu dis ça. Heureusement, nos auditeurs ne nous voient pas. Il n'y a pas l'image, il n'y a que le son. Mais quand Jean-Yves Bonnet a dit ça, il m'a regardé droit dans les yeux. Bien. Enfin, c'est le printemps, il fait beau. Évidemment, le matériel utilisé lors de ces épreuves va évoluer rapidement. La selle en premier lieu, elle dérive en fait de la selle anglaise et va progressivement s'alléger au cours des décennies en raison des nouvelles techniques de fabrication et bien évidemment l'arrivée de nouveaux matériaux plus légers et surtout plus résistants. Alors de 4 à 5 kilos à l'origine, elle pèse aujourd'hui moins de 200 grammes.
Oui, c'est très léger, oui.
C'est très très léger.
Une selle de jockey.
Oui. Alors pour y arriver, on a d'abord supprimé l'arçon. Bon, effectivement, on vire l'arçon. La selle se réduit pratiquement en fait à une simple feuille qui garde néanmoins la forme d'une selle anglaise classique. Alors là, ça serait pas obligatoire. Voilà, une sorte de bardette.
Ouais.
Mais les celliers ont gardé la forme de la selle anglaise, beaucoup plus plate évidemment, puisque le siège est plat. Donc les quartiers sont fixés aussi très en avant par rapport à la selle classique. Cette disposition tient compte de la position particulière du jockey qui, à chaque foulée de son cheval, doit s'accroupir au maximum au-dessus de sa selle, avec pour conséquence ses genoux qui s'avancent alors pratiquement à la hauteur du garrot de sa monture.
Il ne touche pas avec son assiette. Donc
voilà, c'est cela. Mais les genoux s'avancent, chaque fois qu'il fléchit, évidemment, les genoux s'avancent. Donc il faut que les genoux soient aussi protégés, mais ça va pratiquement au garrot du cheval.
Je suis le mouvement du galop.
Alors, à lire pour en savoir plus, l'hippodrome, jeu, peuple, politique, de l'historien Gilbert Dagron, dans la collection Bibliothèque des historiens, chez Gallimard. Alors, on arrive à la leçon de l'écuyer. Alors, Jean-Yves, pourrais-tu nous rappeler quelles sont les aides dont dispose le cavalier et pourquoi on les veut indépendantes? On dit toujours l'indépendance des aides, l'indépendance des aides. Je pose la question. Pourquoi ?
Eh bien, parce que, normalement, quand on dit « avance avec un cheval avec ses jambes », on lui dit pas « arrête-toi avec les mains », parce que si on bloque, le cheval dira « mais celui-là, il sait plus ce qu'il veut ». Il me dit « avance avec les jambes » et il me retient avec les mains. Donc, c'est un effet d'ensemble, ça va pas du tout. Et quand on veut pousser une hanche, il faut pas arrêter la pousser avec la jambe droite, avec la jambe gauche. Il faut donc que les jambes et que les aides soient indépendantes. Et avec la main, c'est exactement pareil. Quand on veut manier une épaule, il faut que l'autre main accompagne ou qu'elle aide à ce mouvement. Voilà, l'indépendance des aides, c'est ça. Et ça se travaille, ça s'enrichit.
Et donc, ça permet aussi d'accompagner les mouvements du cheval.
Ça accompagne les mouvements du cheval, ça ne les gêne pas, ça ne les entrave pas.
Donc, il faut que le cavalier aussi, c'est peut-être une chose, il peut s'y entraîner, c'est-à-dire fermer les yeux quand il est sur son cheval et sentir quand l'antérieur, par exemple, gauche du cheval avance, le postérieur droit s'engage, etc., au pas, au trot et au galop, c'est-à-dire d'arriver à savoir...
Ça, c'est le sentiment, c'est sentir. Il faut pouvoir agir en sentant et agir à propos, et dans le mouvement. Donc on agit en principe quand le cheval est au soutien, et non pas quand il est à l'appui. Parce que quand il est au soutien, on peut prolonger le geste, on peut l'embellir, on peut le perfectionner. Alors quand il est à l'appui, il se pose, et donc il précipite si on en prend un moyen empirique pour agir.
Alors est-ce que tu pourrais quand même nous citer les différentes aides que le cavalier a à disposition? Alors il y a les jambes, tu nous l'as dit.
Les mains, les jambes, l'assiette, tout ce dont l'homme dispose. Pour parler, il y a bien sûr le balancier, l'assiette, c'est très très important parce que l'assiette donne l'équilibre, donne l'assise. Et puis quand un cheval est à l'équilibre entre la jambe et la main dans la balance, le fait de déplacer son assiette, il réagit. Donc c'est des principaux aides.
Et alors, est-ce que la voix aussi est un aide?
La voix, oui, mais elle n'est pas autorisée dans les concours de dressage. C'est bien dommage parce qu'à la voix, on peut faire passer beaucoup de choses. Le cheval est musicien. Il est très sensible à l'intonation de la voix et il comprend très très bien ce qu'on lui demande par la voix.
Absolument. Donc ça fait partie au fond des aides, comme comme l'équilibre, l'assiette, les jambes et les mains.
Il faut mimer le mouvement, donc il faut que ce mouvement se fasse en accord avec le cheval.
Alors Élise, que l'on retrouve là, et elle te demande, parce que bon, ça lui fait un petit peu peur et je pense que tu vas la rassurer, elle te demande au fond quelle est la différence entre un cheval qui embarque et un cheval qui s'emballe.
Oui, alors donc le cheval qui embarque, c'est un cheval qui se tord un peu, qui part de travers et qui veut pas aller à l'endroit où on veut l'amener. Mais le cheval qui embarque, c'est le cheval qui a décidé, lui, d'aller quelque part ou qui n'a rien décidé du tout, qui est par douleur, part devant, se braque sur la main, ferme sa mâchoire, se raidit et amène son cavalier, son partenaire et lui-même dans des endroits difficiles. Il peut se jeter dans la rivière, il peut aller dans un endroit dangereux. Voilà.
Dans un endroit dangereux.
Donc, il essaie de s'emporter par son sang.
Voilà. Alors, on dit souvent qu'un cheval qui embarque sait encore ce qu'il fait, alors qu'un cheval qui s'emballe, il est au comble de la panique, et là, il sait plus ce qu'il fait, il sera capable de se jeter dans un ravin, de heurter un arbre, enfin, il est complètement halluciné.
Là, il est complètement bloqué, complètement coincé, donc il va n'importe où.
Et alors, petit conseil, ça t'est arrivé d'avoir des chevaux qui t'embarquaient?
Non, c'est assez rare, c'est une défense sur la mauvaise pratique du cavalier ou une défense autre, quoi, sur une douleur par exemple, un cheval qui a très 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 mal et qui ne sait plus où il va et qui ne sait plus ce qu'il fait.
Et alors, est-ce qu'on sent arriver le moment où cheval... Ah oui, alors quels sont les signes?
Ce qu'il faut, c'est revenir à des choses beaucoup plus simples, plus douces et plus compréhensibles de la part du cheval, parce que bien souvent, c'est parce qu'il n'a pas compris, qu'il s'est coincé et qu'il est parti dans toutes les directions.
Et est-ce que c'est quand même pas un cheval psychologiquement un peu fragile?
Si, bien sûr. Mais il y a des chevaux consanguins, des chevaux qui se chauffent au travail et à la gymnastique et qui n'acceptent pas. Donc voilà, il faut un équilibre mental et un équilibre physique.
Alors, le dicton de la semaine. Alors, très vite, Jean-Yves, la colère est mauvaise conseillère, mais surtout mauvaise cavalière.
Ah ben, tout à fait, parce que par la colère, justement, un cheval risque de prendre peur et risque de faire ce qu'on a dit, embarquer son cavalier. C'est pour ça qu'on préconise, et les grands maîtres ont toujours tous préconisé, la douceur. Par la douceur, on est calme, on est en avant, on est droit, et on peut arriver beaucoup plus facilement que par les moyens empiriques.
Ah, merci Jean-Yves. C'est avec plaisir donc que Jean-Yves Bonnet, le messager du cheval, et moi-même vous donnons rendez-vous mardi et samedi prochain, même heure et même adresse, pour vagabonder en votre compagnie sur les chemins de cette incroyable alliance nouée au cours des siècles entre un animal peureux et celles et ceux qui s'y sont passionnés, qui continuent à s'y passionner aujourd'hui.
Non pour s'en servir, mais pour le servir.
Alors n'oubliez pas, tous les mercredis et les samedis à 12h35, il y a un cheval dans les studios de CFM Rodez 107.9 et de CFM Villefranche-de-Rouergue 90.2. Vous pouvez également réécouter l'ensemble de ces émissions sur le site cfmradio.fr à la rubrique Le Messager du Cheval. Merci de votre fidélité.
À la semaine prochaine et un grand bravo à nos chevaux.
Ciao, ciao.
Les chevaliers, vaillants et fiers sur leurs coursiers, en grand voyage vers le lointain pèlerinage. Hey, hey! La vie est un combat, ami, tu peux me croire, la plus belle des victoires est la victoire sur soi. Hey, hey! Et souris, ton cheval est ton ami pour t'aider à trouver le vrai sens de la vie. Hey, hey, confiance que tu as perdue, ce en quoi tu ne croyais plus, suis-nous sur les sentiers pour la retrouver. Hey, non, 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 non. D'aigle mort à Rodez, en passant par Salmiège, du Languedoc au Rouergue, après la mer, les salins, les marais, les garrigues, le plateau du Larzac, la couvertura de Nyon, les Bézous, Salmiège, milieu du sel, patrie de Béranger, de l'Andorre, capitale du Rouergue Rodez, entrée dans la légende de la route du sel, entrée dans la légende de la